fade as time goes by.
We'll be drinking margaritas by the sea, Mamacita.
Good morning, Vietnam!
Je crois que ce Martien veut communiquer.
Shut your raggedy ass up and sit the fuck down!
Here's Johnny.
We're green, okay? Okay?
Le rétroscope.
Dans le cadre d'un partenariat entre Cinésique.fr et GoneHollywood.fr qui propose un focus en septembre sur le film La Petite Sirène, voici un panorama des meilleurs BO issus de dessins animés Disney des années 80 et 90. Deux décennies, l'âge d'or, on peut dire, de Disney, en tout cas un deuxième âge d'or de Walt Disney, avec de nombreux compositeurs, notamment Alan Menken, on le verra, qui a œuvré sur plusieurs films. On va débuter avec Rox et Rookie, The Fox and the Hound, en 1981, musique de Buddy Baker, réalisée par Ted Berman et Richard Rich, c'est leur première réalisation. Rox le renard et Rookie le chien sont les meilleurs amis du monde, mais cette amitié est menacée lorsque le maître de Rookie devient chasseur. On peut dire que c'est une animation d'aventure, où Walt Disney aime croiser les genres, l'animation et un genre cinématographique, on le verra avec la romance, la fantasy, le western, le péplum. En tout cas là, il s'agit d'une animation d'aventure, et le compositeur Buddy Baker est décédé en 2002, il y a donc presque une vingtaine d'années, mais c'est un peu un historique de Disney, puisqu'en fait, il est entré chez Disney en 1955 pour composer avec George Bruns, le compositeur du Livre de la Jungle, la musique de la série Davy Crockett. Et il commença dès 1956 sur des courts-métrages Disney mettant en scène les personnages de Donald, Winnie l'ourson, Dingo. Il signa des musiques quasi exclusivement pour la firme, jusqu'à ce Rox et Rookie qui marque en quelque sorte la fin d'une époque. Ce compositeur est considéré d'ailleurs comme le dernier compositeur affilié contractuellement à un studio. Exclusivement compositeur de Disney donc, d'ailleurs c'est un compositeur qui a connu Walt Disney de son vivant, puisque Walt Disney est mort en 1966, soit quelques années avant Rox et Rookie. La disparition du créateur du studio, Walt Disney, engendre une décennie 70 assez difficile avec des films qui remportent pas le succès d'auparavant. C'est dans un esprit donc de reconquête que s'amorce la période évoquée ici. Ce compositeur est à la fois donc tourné vers le passé et vers l'avenir. Buddy Baker donc, un esprit plutôt classique dans la composition, orchestral, trop classique pour certains à l'aube des années 80. Écoutons donc cette partition de Buddy Baker pour Rox et Rookie.
Thank you.
Nous venons d'entendre à l'instant la partition d'Elmer Bernstein en 1985 pour Taram et le chaudron magique, Black Cauldron en anglais, et on a entendu dans cette partition un instrument atypique qui s'appelle les ondes marteneaux. Cet instrument un peu comme une scie musicale qui peut imiter la voix humaine, très souvent utilisé notamment par Bernard Herrmann dans les années 60 pour le genre de la science-fiction. Donc Taram et le chaudron magique, c'est donc un croisement entre le cinéma d'animation et le fantastique. Après Rox et Rookie que nous avons entendu auparavant, la reconquête des studios Disney passe par l'exploration de différents genres. Alors là, le cinéma fantastique, et faire appel également à un compositeur qui est nouveau dans le genre de l'animation, c'est le cas donc d'Elmer Bernstein, que l'on connaît tous pour des films comme Les Dix Commandements, un péplum, comme le western Les Sept Mercenaires. Alors pourquoi les studios Disney ont pensé à Elmer Bernstein ? Eh bien parce qu'il sortait juste d'un gros succès, Ghostbusters, SOS Phantom. Et donc c'était une manière en 1985 de faire appel à un compositeur associé à un succès dans les salles pour éventuellement, par la musique, engendrer également un succès. Mais Taram et le chaudron magique fut encore une fois un échec monumental. La reconquête n'est pas encore commencée. Elle viendra peut-être dès le film suivant, Basil, détective privé en 86, réalisé par Ron Clements et John Musker, The Great Mouse Detective. Et bien encore là un croisement entre l'animation et un genre cinématographique, en l'occurrence le film policier. C'est un film noir se déroulant à Londres en 1897, sous un brouillard épais, et mettant en scène le personnage fantasque de Basil, souris détective. C'est en quelque sorte un film d'enlèvement, mais le côté plutôt sombre du sujet est contrasté par une musique plutôt joyeuse. Et donc les studios Disney pour ce film ont fait appel à Henry Mancini qui était auparavant associé à des films plutôt joyeux justement puisqu'il s'agissait de comédies, notamment des collaborations avec Black Edwards, La Panthère Rose, c'est lui. Et donc Henry Mancini a donc écrit la partition de Basil, détective privé. C'est la première fois qu'il signe un film d'animation. Il en a fait un autre qui s'appelle Tom et Jerry par la suite. Donc deux films d'animation, dont le premier est celui-ci, Basil, détective privé.
Thank you.
deux dernières musiques sont pour des films Disney réalisés par les mêmes réalisateurs, les Ron Clements et John Musker. Et c'est par eux deux que le renouveau de Disney et le succès advena de nouveau. On avait entendu auparavant avec la musique d'Henri Mancini, Basile Détective Privé, hein, le genre du film policier, avec une musique trépidante, pleine d'auto-dérision. Un peu plus de sérieux dans cette dernière partition, il s'agit de l'incontournable La Petite Sirène et première collaboration pour Walt Disney de Alan Menken, on le verra par la suite, qui sera donc incontournable des productions Disney. La Petite Sirène, adaptée d'un conte de l'auteur danois Hans Christian Andersen, et Ron Clements et John Musker trouva avec ce film la manière de redonner du succès chez Walt Disney, c'est-à-dire d'associer l'animation à un conte connu. Là, en l'occurrence, donc, adaptation d'Hans Christian Andersen. Par la suite, on verra qu'il y aura d'autres contes adaptés. Adaptation d'un conte et un univers merveilleux. Il s'agit là donc de la petite sirène qui ne peut résister à la tentation d'aller à la rencontre d'un monde inconnu, celui des humains. Il y a donc l'association entre l'anthropomorphisme de Disney, l'humain est toujours là, et à la fois un monde merveilleux, inconnu et lointain. Et donc ce merveilleux-là est prolongé dans la partition d'Alan Menken, qui est très très doué dans l'écriture de mélodies, dans un héritage classique, orchestral. On pense, en écoutant les musiques d'Alan Menken, à l'âge d'or hollywoodien des années 30. Donc il y a cette écriture des thèmes, cette écriture orchestrale, et ça lui a valu à Alan Menken son premier Oscar pour La Petite Sirène. Une facture donc classique, avec quelques petites tentatives de modernisation qui passent par la convocation du milieu du personnage. À chaque fois, on le verra, il y a l'environnement des personnages qui est associé à la musique. La Petite Sirène, l'environnement du personnage, évidemment, c'est l'eau, le milieu aquatique, qui est donc prolongé dans la partition avec une ondulation musicale qui peut rappeler l'ondulation de l'eau et quelques sonorités qui rappellent les coquillages et justement la sirène. Voilà donc l'association du classique et de la modernité. Et puis, évidemment, on ne peut pas omettre que, en plus de la partition orchestrale, Walt Disney renoue également avec l'écriture de chansons, des chansons joyeuses, nostalgiques, écrites avec des paroles de Howard Ashman, qui décéda d'ailleurs peu de temps après ce film. Alors après La Petite Sirène, Alan Menken continue avec Walt Disney pour La Belle et la Bête, Beauty and the Beast, en 1991. Le retour donc d'Alan Menken est son deuxième Oscar consécutif, toujours sur des paroles de Howard Ashman, décédé avant que le film ne soit terminé. Ce film donc qui mêle toujours partition orchestrale et chanson et qui rappelle un peu Walt Disney en fait finalement emprunte le terrain de l'opéra où les chansons et la musique vont illustrer les enjeux du récit. D'ailleurs, à partir de ce film-là, La Belle et la Bête, il y a eu une adaptation à Broadway en 1994, trois ans après, La Belle et la Bête de Alan Menken a été donc adaptée pour Broadway, pour la scène. Alors à chaque fois, donc le milieu aquatique pour La Petite Sirène, et là c'est le milieu de Paris, l'impressionnisme parisien, avec une influence un peu de Debussy, et à la réalisation Gary Trousdale et Kirk Wise qui feront par la suite Le Bossu de Notre-Dame, toujours situé à Paris. C'est une romance, un conte de fées, un thème pour chaque personnage, un pour la belle, un pour la bête, une partition donc orchestrale qui illustre la fable, des ballades romantiques fournissant une grande variété d'émotions. Thank you. Alan Menken continue sur sa lancée, Walt Disney n'arrête pas une formule qui gagne, puisque tous ses films ont des succès, que ce soit dans les salles auprès du public, auprès des professionnels, mais aussi auprès de l'Académie des Oscars, puisque Alan Menken, pour la partition que l'on vient d'entendre, soit Aladdin, a remporté son 3e Oscar, quasiment consécutivement. Donc, gros succès, et encore un nouveau milieu exploré. Après l'eau Paris, il s'agit de l'aventure exotique d'Aladdin dans un monde oriental, et l'on a entendu des sonorités orientales qui rejoignaient l'orchestre symphonique dans cette partition. L'exotisme d'Aladdin, donc, c'est le squelette de cette partition dans ce film Aladdin. Aladdin retrouve donc Disney après La Petite Sirène et La Belle et la Bête, et on verra par la suite que d'autres mondes merveilleux vont pouvoir être explorés. Il y a donc l'orchestration colorée, des cuivres martiaux, festifs, il y a même parfois des solos de clarinette ensoleillés, et comme on l'a entendu, une écriture thématique très prégnante, et toujours la caractérisation de personnages. Aladdin est déterminé par son caractère un peu gauche, un peu maladroit, et ça se retrouve dans la partition. Ensuite, on quitte un instant Alan Menken, puisque avec Le Roi Lion, c'est Hans Zimmer à la partition. Hans Zimmer, ce qui n'est pas donc Alan Menken, mais ce qui n'empêche pas d'avoir un autre Oscar pour la musique. Hans Zimmer, donc Oscar pour la partition du Roi Lion en 1994. Il succède donc à Alan Menken, parce que Alan Menken était occupé au même moment par Pocahontas, que Disney développa en même temps. On abordera Pocahontas juste après. Alors Hans Zimmer, jusque-là connu bon, pour des films de Ridley Scott, c'est son premier film d'animation. Il n'était pas préparé à faire ce film d'animation, et il s'en est plutôt bien sorti. Et là encore, il s'agissait d'illustrer par la musique un univers, et là en l'occurrence, l'univers plutôt africain, avec justement le chanteur sud-africain Lebo M, qui s'est joint à la partition. Et puis également Elton John, la pop star anglaise, qui a écrit et interprété plusieurs chansons originales. Alors donc l'Afrique et Hans Zimmer, dans ce film-là, qui donne justement toute une partition illustrant les aventures du Roi Lion, une musique donc qui prolonge l'environnement, la géographie, qui est l'âme du film. Hans Zimmer se soucie davantage de la globalité de l'esprit du film, plutôt que d'illustrer au cas par cas, dans une synchronisation, comme le dessin animé a pu le faire au début du cinéma, avec cette synchronisation à l'extrême au mouvement des personnages. Donc là, c'est vraiment presque un renouveau Hans Zimmer dans l'approche musicale d'un dessin animé. Après la flûte qui correspondait à la fragilité du petit lionceau Simba dans Le Roi Lion par Hans Zimmer, à l'instant, on retrouve l'orchestre massif de Alan Menken pour Pocahontas en 1995. Là, c'est une aventure historique sur la colonisation des Indiens par les Anglais, et Pocahontas, ce personnage, veut éviter la guerre. C'est le premier dessin animé de Walt Disney adapté d'un véritable événement historique. C'est l'unique film du tandem Mike Gabriel et Eric Goldberg à la réalisation. Eric Goldberg avait été le créateur du génie dans Aladdin. Développé donc en parallèle du Roi Lion, Alan Menken remporta pour Pocahontas son 4e Oscar. Décidément, le succès est toujours présent donc dans cette nouvelle âge d'or finalement de Walt Disney. Depuis les premiers films que l'on a pu évoquer, Rox et Rookie, on peut dire qu'en 1995, il a fallu une quinzaine d'années pour que Disney retrouve le succès justement le public, à la fois l'enfant et l'adulte dans les salles. Alors après le monde marin, le Paris impressionniste et l'Orient, il s'agissait dans Pocahontas de convoquer la culture indienne avec une attitude plutôt classique de la part d'Alan Menken pour convoquer donc cette culture indienne que l'on vient d'entendre. Alors on quitte encore une nouvelle fois Alan Menken, c'est plutôt une parenthèse que l'on vous propose maintenant. En 1995, il s'agit donc d'une parenthèse dans la série des films Walt Disney des années 90, une parenthèse plus humoristique, plus légère, plus cartoonesque même. Il s'agit de Dingo et Max, Goofy Movie en VO, une comédie donc de Kevin Lima. C'est le premier film de Kevin Lima qui fera par la suite Tarzan et les 102 Dalmatiens. C'est l'histoire d'une transmission entre le père et son fils, entre Dingo et Max, et changement de compositeur qui a surpris tout le monde d'ailleurs, puisqu'il s'agit de Carter Burwell, déjà 5 films à son actif avec les frères Coen, dont la Palme d'Or Barton Fink, et un an avant Fargo, et donc l'animation était nouveau pour lui, pour ce Dingo et Max, et ça s'est mal passé puisque la proposition musicale de Carter Burwell a déplu à Disney. C'était un bras de fer entre lui et la production. Disney a d'ailleurs engagé Don Davis pour retravailler le score. Sa partition s'appuyait trop à leur goût sur une instrumentation inhabituelle. Carter Burwell avait utilisé les percussions du banjo. Disney souhaitait retrouver une partition symphonique. Alors on retrouve dans la partition les thèmes écrits par Carter Burwell avec une orchestration de Don Davis. Après Carter Burwell sur Dingo et Max et cette touche humoristique, nous retrouvons l'épique de Alan Menken avec le bossu de Notre-Dame, dessin animé adapté de Victor Hugo en 1996. Alan Menken retrouve les réalisateurs, Gary Truesdale, Kirk Wise après La Belle et la Bête. On y retrouve un même esprit français, une même romance entre une bête, Quasimodo ici, et une belle, Esmeralda. Musique de type grégorien, évoquant le poids de la foi dans cette cathédrale, au travers de cette quasi-figure tutélaire de cette église mythique de Paris. Donc on retrouve le côté gothique, quelque part, et des chœurs. L'utilisation des chœurs, qui était une première à ce point-là, dans une partition d'Alan Menken pour Disney, une musique presque donc chorale, mystique, gothique, pour le bossu de Notre-Dame. Autre univers, en 97, toujours avec Alan Menken, il s'agit d'Hercule. Hercule, donc, c'est également comme un retour aux sources, puisque ce sont les réalisateurs de La Petite Sirène et d'Aladin qui réalisaient donc Hercule, John Musker et Ron Clements. C'est également le dernier film de la série des Disney avec Alan Menken des années 90. Il ne reviendra ensuite qu'en 2004 sur La Ferme se rebelle, puis ensuite sur Il était une fois en 2007 et Réponse en 2010, avant de revisiter dernièrement ses BO anciennes, comme La Belle et la Bête et Aladdin en 2017-2019, pour les remakes en prise de vue réelle du studio. En tout cas, là, donc, dernier film d'Alan Menken pour cette série des années 90, Hercule, et autre milieu, autre environnement, il s'agit évidemment là de la Grèce antique et le croisement entre le cinéma d'animation et le péplum. D'ailleurs, on entend au début du film la voix de Charlton Heston, l'acteur de Ben-Hur, et on entend dans la partition un côté antique, on entend dans la partition une influence peut-être de Miklós Rocha, le compositeur de Ben-Hur. Alors l'histoire se déroule chez les dieux, et Alan Menken part en quête d'une musique populaire. Il voulait, avec sa partition, rivaliser avec la fascination que pouvait avoir la population à l'époque pour la divinité, et pour les chansons de Hercule, il a donc choisi le genre du gospel. Et donc d'un côté les chansons gospel, et de l'autre côté l'orchestre massif pour souligner la force du héros Hercule. Après donc cette dernière partition des années 90 pour Alan Menken, Hercule qui fut un échec critique et aussi dans les salles, chez Walt Disney c'est toujours une question de cycle, il y a toujours la fin d'un cycle et le début d'un autre cycle, et donc la fin du cycle Alan Menken, Walt Disney cherchait comment faire un nouveau cycle. Ça passe toujours par trouver un nouvel environnement, avec Mulan, dont on vient d'entendre la partition de Jerry Goldsmith, ils se sont dirigés vers la Chine pour la première fois. On entend d'ailleurs des petites sonorités chinoises hongroise dans la partition, et le renouveau passe par le choix d'un nouveau compositeur, et donc là il s'agissait du grand Jerry Goldsmith, qui était d'ailleurs nommé à l'Oscar pour ce film, et c'était uniquement son deuxième film d'animation dans l'histoire, son unique film d'animation pour Disney, puisqu'en fait, 16 ans auparavant, il avait signé la partition de Brisby et le secret de Nîmes, mais il s'agissait d'une production United Artists pour le film de Don Bluth. Alors Jerry Goldsmith pour Disney, donc unique occasion pour la Chine, mais malheureusement, malgré le grand talent de Jerry Goldsmith, ça ne fonctionnait pas. Il y a un côté épique dans la partition qui est très agréable, mais une volonté de moderniser à tout prix faisait que Jerry Goldsmith, sur la demande de Walt Disney, a associé l'orchestre avec des synthétiseurs, et comme on vient de l'entendre, il y a un côté un peu cheap qui peut-être ne correspondait pas à l'esprit de Walt Disney, et justement cette volonté à tout prix de moderniser cette géographie chinoise peut-être paraissait un peu ridicule dans le film Mulan en 98. Jerry Goldsmith s'est retrouvé avec cette partition à mi-chemin entre l'innocence d'Alan Menken et cette innocence qui fonctionnait bien, et de l'autre côté la puissance épique d'un Hans Zimmer qui fonctionnait également. Mais cet entre-deux ne fonctionnait pas. Alors après cette occasion ratée de Jerry Goldsmith chez Walt Disney avec Mulan, Walt Disney voulait trouver d'autres manières de retrouver le succès, et donc il s'agissait en 1999 de Tarzan, et il voulait Hans Zimmer pour Tarzan, mais Hans Zimmer avait peur de refaire Le Roi Lion, et donc ils se sont dirigés vers un compositeur de l'écurie d'Hans Zimmer chez les studios Remote Control. Il s'agissait de Mark Mancina, un compositeur donc qui a appris un peu la composition chez Hans Zimmer, et donc Tarzan est réalisé par Kevin Lima, qui donc avait fait ses débuts dans la réalisation par Dingo et Max qu'on avait vu tout à l'heure, et Chris Buck, autre réalisateur sur ce film, avait commencé sa carrière chez Disney en 78 sur Rocks et Rookie. C'est comme une boucle qui se boucle. On y retrouve donc l'esprit du Roi Lion dans Tarzan, avec la jungle toujours présente. On y retrouve les réalisateurs de films auparavant à succès de Disney. On y retrouve des chansons, qui n'étaient pas le cas dans Mulan, des chansons de Phil Collins, notamment 5 chansons. Et donc, premier film d'animation de Mark Mancina, le compositeur. Et donc, Disney a tellement aimé cela qu'ils reprendront Mark Mancina à plusieurs reprises par la suite, sur Frères des Ours en 2003, Plane 1 et 2, L'Avion en 2013, et Vaiana, La Légende du Bout du Monde en 2016. Mark Mancina, on se quitte sur cette partition de Tarzan. Au revoir et à une prochaine chronique, gonhollywoodcinesic.fr. Et là, c'était donc Disney des années 90. Au revoir.